activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Ils habillent notre ciel, colorent nos paysages et enchantent nos balades du dimanche. Remparts aux caprices de la météo, fournisseurs fidèles de bois pour nos constructions et notre chauffage, sujets immobiles de nos peintures et nos photos Insta, les arbres nous ont vus apparaître et nous verrons certainement nous autodétruire. De la majestueuse créature aux branches infinies, à l'arbuste qui empêche le voisin de voir nos siestes improvisées, ils sont partout. Mais que connaissons-nous d'eux ? Les dernières découvertes scientifiques ouvrent les portes d'un monde insoupçonnable. Réseau de communication, compétition, mais aussi partage des ressources, sensibilité et apprentissage. Bienvenue à l'écoute du Labo des Savoirs. Aujourd'hui, l'arbre est au cœur de nos interrogations. Pour en parler, nous recevons Catherine Laine, enseignante-chercheuse en physiologie végétale à l'Université Clermont-Auvergne. Elle est l'autrice de nombreux articles scientifiques, mais aussi de deux livres, « Dans la peau d'une plante », publié en 2014, ainsi que « Dans la peau d'un arbre, secrets et mystères des géants qui nous entourent » de 2021. Catherine Laine tient également un blog, « Des fleurs à notre porte », qui s'adresse aux curieux qui aiment les plantes, la botanique et la photographie. L'adresse, c'est www.desfleursanotreporte.fr. À l'occasion d'une conférence publique donnée au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes, appelée « Intelligence des plantes, mythe ou réalité », nous avons pu lui poser quelques questions sur ses travaux en préambule de sa conférence. Les voies de la recherche scientifique au Labo des Savoirs. Catherine Laine, merci d'être avec nous. Vous êtes enseignante-chercheuse en physiologie végétale à l'Université Clermont-Auvergne. Vous travaillez dans le labo PIAF, qui est un acronyme rigolo mais qui n'a rien à voir avec les oiseaux. C'est le laboratoire de physique et physiologie intégrative de l'arbre en environnement fluctuant. C'est un très long nom, mais c'est donc un laboratoire interdisciplinaire qui a comme sujet central l'arbre. Alors qu'est-ce qu'on y fait dans ce labo ? Sur quoi on travaille au PIAF ?
Alors, on travaille effectivement sur l'arbre, c'est le modèle de toutes les équipes du laboratoire. L'essence peut varier d'ailleurs d'une équipe à l'autre, mais globalement, on travaille tous sur l'arbre. Ce laboratoire, il cherche à comprendre comment les arbres perçoivent les signaux de l'environnement et comment ils répondent à ces signaux. Et quand ils perçoivent ces signaux, alors de quels signaux parle-t-on ? C'est par exemple la température, c'est par exemple la sécheresse, le vent, la gravité, etc. Donc tous ces facteurs physiques de l'environnement, l'arbre est capable de percevoir les fluctuations de ces facteurs, les variations de ces facteurs, et d'y répondre de manière adaptée. Et c'est ça qu'on étudie au labo.
En 2021, vous avez tenu une conférence qui avait pour titre « L'arbre, un être hypersensible ». Alors, il peut sembler difficile d'imaginer quand on les voit que ce sont des êtres qui sentent des choses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire ?
Oui, alors le vrai mot scientifique, c'est la sensibilité. La sensibilité au sens biologique du terme. Et tout le vivant est sensible. Qu'est-ce que c'est être sensible ? C'est donc être capable de percevoir un signal et de répondre à ce signal. Une bactérie va percevoir des signaux autour d'elle, dans son environnement, et répondre de manière adaptée. Un arbre également, un homme également. Donc tout le vivant est sensible. Attention, ce mot de sensible, ça n'est pas celui que nous utilisons quand on parle de nos émotions. C'est pas la sensibilité qui nous fait pleurer au cinéma devant un film triste. Cette sensibilité, c'est vraiment au sens biologique du terme que je l'utilise. Et le titre de la conférence que vous évoquez, bon, c'était un petit clin d'œil, effectivement, de taxer l'arbre d'hypersensible, comme s'il était capable justement de pleurer au cinéma. Donc c'est pour attirer l'attention sur le fait qu'un arbre, une plante en général, est non seulement sensible, mais de manière très exacerbée.
Alors quand on parle de sensibilité, on arrive vite à penser aux cinq sens. Chez l'homme, on pense à la vue, l'odorat, le toucher, le goût ou l'ouïe. Et donc l'arbre, avec des lunettes ou des oreilles, on a du mal à l'imaginer. Mais dans un article que vous avez écrit en 2018 pour le magazine Espèces, vous parlez de ces cinq sens chez la plante. Quels sont-ils ?
Alors effectivement, j'ai utilisé ce parallèle avec nos sens. Qu'est-ce que c'est qu'un sens pour nous ? Pour l'homme, ça a été défini bien sûr comme étant les organes de la sensibilité. L'œil, l'oreille que vous avez cité sont des organes dans lesquels sont concentrés les capteurs des signaux qui font la vue ou qui font l'ouïe. Pour la vue, ça sera des capteurs de lumière, pour l'ouïe, ça sera des capteurs de vibrations mécaniques. Donc, évidemment, il n'y a pas d'oreille, il n'y a pas de nez dans un arbre, mais on va trouver dans cet arbre, dans ces plantes en général, on va trouver des capteurs qui sont sensibles à la lumière, qui sont sensibles à des vibrations mécaniques, qui sont sensibles à de l'acidité, qui sont sensibles à la température, etc. Donc, en fait, les sens de la plante, de l'arbre, sont diffus dans tout son corps, dans toutes les cellules vivantes de la plante. Elles sont toutes capables de sentir. C'est presque mieux que nous, parce que c'est pas concentré dans un organe. Tout le corps de la plante est capable de percevoir ces facteurs de l'environnement. C'est pour ça que je fais ce parallèle avec des sens. Bien sûr, il n'y a pas d'organes des sens, mais il y a des sens analogues. On peut évoquer, par exemple, la vue. Une plante est capable de voir sa voisine. Alors, de voir avec des guillemets, parce que ça n'ira pas, évidemment, jusqu'à la fabrication d'une image mentale, parce qu'il n'y a pas de cerveau. Mais il y a la perception de la lumière émise par la voisine, des rayonnements réfléchis par la voisine, et qui indiquent à la plante qui reçoit ces rayonnements qu'il y a une voisine pas loin.
Donc c'est l'espèce d'ombre.
C'est même pas l'ombre. Alors ça peut être l'ombre, mais là ce que j'évoque en fait, c'est vraiment comme un miroir. Les feuilles d'une plante sont un miroir pour les rayonnements infrarouges. Et la plante rayonne d'infrarouge. Et finalement, la présence d'une plante dans le milieu, pour une plante voisine, c'est quoi ? Ben, c'est un environnement lumineux enrichi en infrarouge proche.
Des infrarouges que nous, les humains, on ne peut pas voir.
Et voilà. Et c'est bien de le souligner, Sophie, parce que ça permet aussi de dire qu'une plante, ben, elle n'a pas tout à fait les mêmes capacités que nous. Elle en a en plus. Elle est capable de voir dans l'infrarouge. Nous, non.
Alors, d'autres sens me posent question. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait être l'ouïe chez l'arbre ? Comment pourrait-il entendre ?
Alors là, pour ce sens-là, c'est celui qui est le plus encore en point d'interrogation. Il y a eu beaucoup de travaux autour de la lumière, beaucoup de travaux autour du vent. Le vent, c'est chez nous, à Clermont, qu'on travaille là-dessus. La gravité, etc. Donc, pour l'ouïe, l'ouïe, c'est quoi ? Enfin, entendre, c'est quoi ? Le son. Le son est une vibration mécanique de l'air. Une vibration mécanique qui fait bouger des petits osselets dans notre oreille, hein, et qui fait vibrer notre tympan en amont. Pour une plante, les vibrations mécaniques, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce qu'une plante est sensible aux signaux mécaniques. Ça, on l'a parfaitement montré, et en particulier à Clermont-Ferrand. Une plante est sensible à l'affection. Une plante est sensible aux vibrations, à des secousses. Elle est capable de percevoir tout cela parce qu'elle a des capteurs mécanosensibles. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas l'ouïe ? Pourquoi pas sentir le son ? Alors, il y a quelques travaux à l'échelle mondiale, hein, de collègues italiens, qui ont montré que des racines de plants de maïs qui poussent dans une cuve de solution nutritive, donc quelque chose de liquide, dans lequel on a placé un haut-parleur, eh bien, les racines vont pousser en direction du haut-parleur. Et le son qui est émis par le haut-parleur, c'est la fréquence d'un ruisseau. Donc voilà, ils ont déduit que les racines étaient capables d'entendre la source du son, et c'est-à-dire ici le ruisseau. Ces manip-là, il faut les refaire. Il faut que d'autres travaux viennent compléter cela pour qu'on puisse affirmer qu'effectivement une plante entend quelque chose. Pour l'instant, on n'en est pas là.
Alors, on pense aussi dans les sens. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est le toucher. Il y a par exemple cette mode de faire des câlins aux arbres, d'aller dans la nature, de toucher les troncs. Vous avez parlé du vent. A priori, le vent qui fléchit les troncs d'arbres, on se dit que l'arbre peut le sentir et s'adapter. Est-ce qu'il sent aussi les caresses de promeneurs ?
Alors, la flexion du tronc, des branches, va être perçue si le tronc est suffisamment flexible pour fléchir, hein, bien sûr. Donc, des troncs pas très épais, des branches assez fines, etc. Le tronc que vous touchez dans la forêt en passant, bah souvent, c'est des gros troncs. C'est l'écorce faite de liège emballe ce tronc. Et là, je ne pense pas que le liège contienne ce qu'il faut pour ressentir la caresse. Pourquoi ? Parce que pour sentir une pression mécanique au niveau d'un tissu, il faut que ce tissu soit vivant. Et il faut que le tissu soit, que la main caresse des cellules vivantes finalement. Et là, le liège, c'est que des cellules mortes. Donc je pense que là, la caresse, non, il ne la sentira pas. Par contre, méfiez-vous, parce que vous pouvez peut-être sentir des choses pas très sympathiques sur les troncs. Hein, parce qu'un arbre, ça vit jamais tout seul. Et ça vit avec beaucoup d'autres espèces sur son tronc, dans les crevasses de son écorce. Et il peut se trouver là des lichens ou des mousses ou des acariens, des insectes, enfin des choses qui peuvent vous causer des allergies ou des piquures. Donc méfiez-vous quand même.
Donc les câlins pour les arbres, c'est pour les courageux. Ces sens sont donc utilisés pour percevoir l'environnement, mais aussi ces fluctuations, donc on l'a dit, plus ou moins de vent, des changements de température aussi peut-être, la présence d'eau ou au contraire une sécheresse, la gravité qui nous attire tous vers le centre de la Terre, la lumière, l'obscurité. Comment ces changements sont-ils perçus par l'arbre en sachant que nous on pense à notre réseau de neurones, à notre cerveau, l'arbre n'a pas de cerveau, comment fait-il ?
Oui, la question que vous posez, elle est encore, c'est une grande boîte noire encore. C'est-à-dire comment les signaux perçus, la réponse à l'échelle cellulaire, ça on connaît assez bien, comment les signaux sont-ils intégrés à l'échelle du tissu où se trouve la cellule, à l'échelle de l'organe, de la feuille, de la tige, etc., et à l'échelle de la plante entière qui répond, ben on ne sait pas encore bien. Effectivement, il n'y a pas de cerveau. Effectivement, il n'y a pas de réseau de neurones. Par contre, il y a des courants électriques. J'allais dire comme dans tout le vivant. Une cellule peut tout à fait être animée de courants électriques au niveau de la pellicule qui la recouvre, la membrane. Donc, est-ce qu'il y a des courants électriques qui circulent ? Est-ce qu'il y a donc des influx, entre guillemets, dits nerveux, bien qu'il n'y ait pas de nerfs ? Bon, tout ça, ça reste encore à l'échelle de recherche, de questions. On est là vraiment sur un front de science. Qu'est-ce que c'est qu'un front de science ? On dit aussi de la science chaude, c'est-à-dire de la science qui se construit. On est en train de chercher, de publier. Et vous savez que dans le monde scientifique, quand quelqu'un publie noir, eh bien, deux mois après, une autre équipe va publier blanc. Ou si la deuxième publie noir, eh bien, ça vient renforcer le modèle que la première équipe avait construit. Mais voilà, on est encore dans un monde de recherche. Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas comment la plante, l'arbre intègre ces signaux à l'échelle de son corps entier. Ce qui est sûr, c'est qu'il le fait, puisqu'on montre très bien que, par exemple, une flexion d'un jeune arbre à la base du tronc, comme un coup de vent, va provoquer un arrêt de sa croissance en hauteur. Et la croissance en hauteur, ça se passe au bout de la plante, au sommet de cet arbre. Donc un signal qui est émis au niveau de son collet, la zone de jonction entre la tige et les racines, déclenche une réponse à l'autre bout, au sommet de la tige. C'est donc qu'il y a une information qui circule et la réponse est une réponse globale de la plante. Donc il y a bien une intégration.
Donc c'est encore un bouillon d'hypothèses, on ne sait pas. Mais vous avez parlé de courant électrique, c'est très curieux. Comment ça a été mis en évidence ?
Ces courants électriques, on les a mis en évidence sur des plantes bizarres. Des plantes qui répondent à la caresse de manière très rapide. Alors, je suis sûre que vous les connaissez. Il y a par exemple la sensitive, qui est une toute petite plante. Lorsqu'on effleure ses feuilles sont découpées en petites folioles. Lorsqu'on caresse les folioles de la feuille, les folioles se replient immédiatement. Ou bien, il y a également les plantes carnivores, comme la dionée, dont les feuilles sont transformées en pièges à loups et qui vont se refermer sur l'insecte lorsque l'insecte, en se promenant sur la feuille, va effleurer trois poils sensibles. Donc, ces plantes-là, qui sont des cabinets de curiosité, hein, comme on dit, ont intrigué, et puis depuis longtemps, hein, c'est-à-dire que même déjà Darwin les étudiait, ces plantes-là. Et on a donc essayé de mesurer des courants électriques, et on a pu mesurer des courants électriques qui ressemblent aux nôtres, qui ressemblent à des potentiels d'action, et qui seraient donc le signal permettant la fermeture de ces feuilles. Donc on a commencé sur ces plantes bizarres, et puis on a cherché sur d'autres plantes. Et en fait, on peut mesurer des courants électriques sur toutes les plantes. C'est pas facile à faire, parce qu'il faut être sûr de ne pas mesurer du bruit, des courants électriques qui viendraient perturber votre mesure. Donc ça se fait pas facilement quand on voit des gens qui vont dans la nature enfoncer deux électrodes dans un tronc d'arbre et mesurer ce qui s'y passe. Moi, ça me fait un peu sourire, parce que pour faire de véritables mesures et être sûr qu'on mesure un courant électrique interne, il faut faire ça dans une cage de Faraday, dans un laboratoire, dans un environnement très contrôlé et non pas dans le parc ou dans la forêt d'à côté.
Tout à l'heure, on a évoqué la présence de signaux, notamment les arbres qui peuvent percevoir leurs voisins par les rayons infrarouges. Alors, quand on parle des animaux, par exemple, qui souhaitent communiquer, on pense à plein de choses. Ils peuvent faire des gestes, ils peuvent se déplacer, ils peuvent faire des grimaces, émettre des sons. Alors, difficile d'imaginer les arbres qui communiquent avec leurs voisins. Alors, moi, il y a une information scientifique que j'ai beaucoup entendue. Un exemple qui est connu, c'est celui des molécules chimiques qui seraient envoyées par l'acacia quand il se fait manger par une girafe pour prévenir ses voisins acacia qu'a priori, ils risquent d'être attaqués. Est-ce que donc les arbres peuvent communiquer entre eux comme l'acacia ?
Alors, effectivement, cette belle histoire, c'est comme un conte. On l'entend depuis longtemps, on l'entend depuis 1983. C'est l'époque où les recherches commencent sur la communication entre les plantes. Et dans ces années 80, un scientifique sud-africain constate effectivement que dans un parc là-bas en Afrique du Sud, un parc dans lequel on a redivisé les grandes parcelles en petites parcelles, les antilopes, là c'était pas les girafes, c'était les antilopes, ne peuvent plus aller librement partout dans le parc, sont confinées dans ces petites parcelles et donc sont forcées de se nourrir des arbres qu'il y a dans ces petites parcelles. Ces arbres, ce sont des acacias et ils constatent que les antilopes, en mangeant ces acacias, meurent en foule. Donc, ils se demandent ce qui se passe. Et donc, en analysant le contenu de leur estomac, ils trouvent des feuilles de ces acacias non digérées. Et ces feuilles sont bourrées de tanins. C'est-à-dire que les feuilles sont devenues immangeables. Or, lorsqu'il fait les analyses sur l'arbre lui-même, les feuilles n'ont pas de tanins. Donc, lui, il dit... lorsque l'antilope broute les feuilles de l'arbre, l'arbre se défend en fabriquant très rapidement des tanins qui rendent ses feuilles immangeables et qui normalement repoussent l'antilope qui va brouter un arbre plus loin et qui s'en va. Mais comme les parcelles là sont toutes petites, eh bien les antilopes ne pouvaient plus partir. D'accord ? Ça, c'est l'histoire d'origine. Et à cette histoire d'origine... ont été ajoutés des éléments qui proviennent d'autres études dans des laboratoires sur d'autres modèles pour faire une espèce d'histoire chimère, hybride, qui ne correspond pas à la réalité parce que ce qu'on entend maintenant dans l'histoire actuelle, rien n'est prouvé. C'est-à-dire on n'a jamais prouvé que ces arbres émettaient de l'éthylène dans l'air, que l'éthylène était perçu par l'arbre voisin, qui, en percevant cet éthylène, se mettrait à fabriquer des tanins alors qu'il n'est pas encore brouté. Voilà, tout ça, c'est rajouté, c'est pas vraiment inventé, puisque c'est pris dans des travaux d'autres équipes, sur d'autres plantes, dans d'autres laboratoires. Mais cette histoire même de terrain des acacias et des koudous, c'est le nom des antilopes, elle n'existe pas. C'est en gros une fake news, ou une fake new, puisqu'elle est toute seule. Mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire ? Elle est quand même inspirée de travaux réels. Alors, qu'en est-il de cette communication véritablement ? Eh bien, on a bien montré dans plein de modèles différents qu'une plante, lorsqu'elle est attaquée par un herbivore, une chenille, la feuille qui est grignotée immédiatement déclenche, la perception de la blessure déclenche la fabrication de substances de défense, par exemple des tanins qui vont rendre le bol alimentaire parfaitement indigeste, d'accord, et donc qui vont repousser l'herbivore, exactement. Ou bien d'autres molécules qui viennent le détruire, si c'est un champignon pathogène, par exemple. Donc ça a été bien montré. La deuxième chose que fait la feuille, c'est qu'elle émet dans l'air des substances volatiles, des composés organiques volatiles. On appelle ça des COV, des COV, composés organiques volatiles. Ces composés organiques volatiles, il y a l'éthylène, par exemple. Ce sont eux qui peuvent être perçus par une plante voisine. Et lorsqu'une plante voisine perçoit ces molécules dans l'air, alors qu'elle n'est pas attaquée encore par l'herbivore, elle va se mettre en état de défense, comme celle qui est attaquée. Et donc, il y a un échange de messages entre la plante broutée et la plante voisine, une sorte de message d'alerte qui déclenche chez la voisine non attaquée un comportement de défense. Donc on pourrait dire, bah oui, ça communique, pas de problème. Sauf que il y a d'autres équipes qui interprètent différemment ces faits-là. Et il y a d'autres équipes dans le monde qui ont dit, ben, nous on a essayé en champ, parce que tout ce que je vous raconte, ça se passe en laboratoire. Il n'y a pas de vent dans les labos. Puis il y en a qui ont essayé sur le terrain, dans le vent. Et là, eh bien, les messages sont dilués dans le vent très rapidement autour de la plante. Ces messages ne vont pas au-delà de 50 cm. Ils sont perdus après. Et les plantes, entre guillemets, au-delà de 50 cm, les voisines deviennent sourdes. Et n'entendent plus ces messages et ne répondent plus aux messages. Et donc ces équipes-là ont dit, eh bien nous on interprète différemment et on pense que les messages volatiles sont destinés en fait à la plante elle-même pour mettre en alerte toutes ses feuilles. La feuille grignotée avertit finalement toutes les feuilles de la plante dans cette espèce de volume autour de la plante de 50 cm autour de la plante. Vous voyez ? Donc c'est pas tout à fait la même chose. C'est une communication parce qu'il y a des messages échangés d'un point à un autre, mais une communication pour la plante elle-même. Et finalement, la perception du message à l'extérieur, ben ce sera un artefact, un accident, une espèce de Watergate des plantes, hein, des espionnes qui écouteraient des messages qui ne leur sont pas destinés.
Alors, on se pose donc la question, est-ce que les plantes, quand même, peuvent communiquer entre elles, ou est-ce que c'est un peu une légende ?
Voilà, donc, on a évoqué les messages volatiles et on a évoqué une contre-interprétation. Après, ça peut passer par le sol aussi. Il y a des gens qui étudient la circulation de messages par le sol, en passant par les racines et en passant surtout par les champignons qui emballent les racines. Parce que vous savez que les plantes vivent, pratiquement toutes les plantes vivent en symbiose, c'est-à-dire en une association très étroite à bénéfice réciproque entre elles et le champignon du sol. Les champignons, c'est pas seulement ceux qu'on mange dans nos omelettes, hein, Sophie. Les champignons, ce sont des filaments. Le corps du champignon, c'est un amas de filaments, un petit peu comme un plat de spaghettis. Et dans le sol, il y a des centaines de souches de champignons différentes qui s'entremêlent, qui s'entrelacent, qui se touchent et même qui fusionnent et donc qui peuvent échanger des substances d'un filament à l'autre. Donc une plante qui est associée à quelques champignons, on appelle ça des mycorhizes, j'ai pas dit le mot, hein, une plante qui est associée à ces champignons mycorhiziens peut très bien se trouver en contact physique à travers ces champignons avec une autre plante voisine qui, elle, est aussi associée à ces champignons mycorhiziens et les filaments au milieu s'entrelacent et se touchent. Donc théoriquement, il y a une connexion physique d'une plante avec une autre dans le sol, d'un arbre avec un autre dans une forêt. Et quand je dis un arbre, des arbres entre eux, avec les plantes de la forêt. Il y a même des gens qui ont appelé ça un réseau souterrain, comme un réseau Internet. Ils appellent ça le WWW, comme la toile, si vous voulez. Et ce réseau de filaments pourrait tout à fait transporter des substances informatives. Alors, qu'en est-il de ces substances ? Est-ce qu'il y en a vraiment ? Donc, pour l'instant, encore une fois, ce sont des études de laboratoire dans lesquelles on va étudier une plante à côté d'une autre dans un pot. Elles sont deux, d'accord ? Donc, c'est très restreint comme système. On est très loin du modèle de la forêt. En laboratoire, on va suivre les molécules fabriquées par une plante dite donneuse et on va regarder si on les retrouve dans la plante receveuse qui partage le même pot et en tout cas qui partage le même réseau mycorhizien. Comment on fait pour suivre ça ? Eh bien, on fait un peu comme les apiculteurs quand ils veulent reconnaître leur reine dans la ruche. Et la reine, elle a un petit point de peinture hein, sur l'abdomen, sur le dos. Et bien là, on va placer un petit point de peinture sur les substances qu'on va suivre. Comment on fait ? On fournit à la plante qui va fabriquer les substances, on lui fournit du dioxyde de carbone radioactif. Et avec ce dioxyde de carbone, elle fait quoi ? Ben comme toute plante, elle fait de la photosynthèse à la lumière. Ça veut dire qu'elle fabrique à partir de ce dioxyde de carbone, marqué radioactivement, et à partir de l'eau qu'il y a dans le pot, et la lumière bien sûr, elle fabrique des sucres, qui sont donc marqués radioactivement. Et ce sont ces sucres qu'on va suivre, qu'on va repérer, comme on peut repérer la reine des abeilles avec son point de peinture, qu'on va repérer dans le pot, enfin dans la plante elle-même déjà qui les fabrique, dans le champignon mycorhizien, dans la terre et éventuellement dans la plante receveuse. Et effectivement, toutes les publications qui paraissent montrent qu'il y a bien un transfert de substances d'une plante à l'autre, mais ces transferts sont en très faible quantité. Là aussi, on lit parfois dans les médias ou dans certains ouvrages qu'une plante va nourrir sa voisine, qu'un arbre mère va nourrir ses petits. Je pense que pour l'instant, c'est faux. On ne peut pas dire ça, c'est un mensonge, parce que ça n'a pas été montré. Ce qui est montré, c'est une petite plante, un petit arbre en pot peut transférer des molécules à la plante voisine, mais en très très faible quantité. C'est moins de... c'est de l'ordre de 2-3% de tous les sucres qu'il fabrique. 2 à 3%, c'est pas grand-chose. Sachant qu'il en donne jusqu'à 30% à ses champignons mycorhiziens. Là, c'est beaucoup. Là, il les nourrit, ces champignons. Mais la voisine, pour l'instant, on ne peut pas dire vraiment qu'elle soit nourrie. Mais peut-être que ces faibles quantités, ben, ça représente des molécules informatives. C'est possible que ce soit des messages. Donc là aussi, je ne peux pas vous répondre. Les études sont en cours, mais on a de plus en plus de publications qui tendent à montrer que ces substances auraient des fonctions de messagères.
Donc encore difficile de savoir, mais si elles communiquent, elles chuchotent pour l'instant.
C'est joliment dit. Je reprends.
Donc on parle de cette potentielle communication. Quand on parle des arbres, il y a un discours souvent qui revient sur le combat pour les ressources. Les arbres se battent pour la lumière, se battent pour l'eau, se battent pour les minéraux. Mais donc on vient de parler de communication. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une coopération entre les arbres et dans la forêt et tous les organismes autour?
Alors, la compétition, c'est un fait avéré. L'écologie étudie les relations de compétition dans un écosystème depuis 50 ans. Donc, nier qu'il y ait de la compétition dans une forêt, eh bien, c'est méconnaître les résultats scientifiques depuis 50 ans. Donc, cette compétition, elle existe bien. Compétition, vous l'avez dit, pour la lumière, pour l'eau, pour les nutriments du sol. Mais est-ce que c'est une guerre permanente ? Il faut aussi avoir en tête qu'un arbre, une plante, ça ne vit jamais seul. Ça vit entouré d'espèces qui l'aident. En particulier, on a évoqué les champignons mycorhiziens. Ces champignons mycorhiziens l'aident à puiser dans le sol l'eau, mais également les éléments nutritifs du sol, et en particulier, par exemple, le phosphore, hein, sous forme de phosphate. Donc, la symbiose, l'entraide entre deux espèces, c'est aussi un maître mot des écosystèmes. Donc il y a de la compétition, il y a de la symbiose. Définir qui fait quoi et avec qui, c'est pas facile dans une forêt, parce qu'il y a du monde. Donc là aussi, j'ai du mal à répondre à cette question, mais encore une fois, nous sommes toujours sur un front de science. Est-ce qu'un arbre peut aider son voisin? On a évoqué ces transferts de substances qui visiblement sont quand même très faibles. Donc là, ça reste un débat qui est très chaud encore dans la communauté scientifique.
Alors ce débat va progressivement nous amener aussi vers la question de l'intelligence. Avant d'en parler, parce que c'est une grosse question, je voulais parler de ce qu'on a abordé un peu tout à l'heure sur le fait que vous aviez expliqué cet exemple. L'arbre, s'il est attaqué à la base par le vent, par exemple, va diminuer, va empêcher sa croissance en hauteur. Donc, l'arbre intègre des informations de son environnement et semble apprendre pour prendre des décisions tout au long de sa vie. Donc, un arbre, ça peut vivre très longtemps, on le sait. Est-ce qu'un arbre peut apprendre tout au long de sa vie?
Alors, il y a des mots que vous avez utilisés, Sophie, qui sont pour l'instant des mots possibles, potentiellement utilisables dans le monde des arbres, et d'autres encore pas. Vous avez parlé d'apprentissage. Je vais vous expliquer que c'est un terme qu'on peut utiliser dans le monde des arbres. Et vous avez parlé de prise de décision. Et là, pour l'instant, ça c'est un mot que je n'utilise pas dans le monde des arbres, ni des plantes en général. Alors l'apprentissage. On a montré au labo que, effectivement, les arbres sont sensibles au vent. Lorsqu'ils grandissent, ils sont donc soumis au vent. Et dans ce vent, ils se fléchissent. Et ce sont ces flexions répétées qui vont le construire et ce sont ces flexions qui le construisent et qui lui permettent de devenir résistant au vent. Comment ça se passe? On a montré qu'une flexion d'un jeune arbre, ça déclenche une réponse de croissance dans l'arbre. Alors cette réponse, c'est effectivement un arrêt de la croissance en hauteur et une stimulation de la croissance en épaisseur. Donc ça va faire un tronc plus petit, une tige plus petite si vous voulez, mais plus trapue. Et ça stimule également l'ancrage racinaire. Donc on imagine bien effectivement qu'un arbre dans le vent, eh bien, c'est intéressant d'être moins haut, d'être plus costaud, hein, plus épais, et d'être mieux ancré pour résister au vent. Mais quand on a commencé à travailler là-dessus il y a 20 ans, on nous prenait pour des joyeux rêveurs, parce qu'on disait, bah oui, mais si les arbres font ce que vous dites, à la moindre brise, dès qu'il y a un coup de vent, ben, ils arrêtent leur croissance en hauteur et ils croissent en épaisseur. Ça veut dire qu'un arbre ne peut jamais s'élever, puisque lui, toute sa vie, il va être soumis au vent. La remarque était juste, mais qu'est-ce qui manquait à notre histoire ? Eh bien, ce qu'on a découvert par la suite, c'est-à-dire que quand on répète la flexion juste après la deuxième, eh bien, on se rend compte que là, l'arbre qui avait bien répondu à la première flexion, hein, qui avait enclenché cette réponse de croissance, j'ai oublié de dire le gros mot, cette réponse de croissance, ça s'appelle la tigmomorphogenèse, c'est-à-dire l'acquisition de la forme en réponse au contact, alors là c'est le contact du vent, d'accord ? Eh bien cette tigmomorphogenèse, quand on fait une deuxième flexion, et là étonnamment, l'arbre ne répond plus. Comme s'il avait appris de la première flexion, qu'il avait déjà répondu, et pour s'économiser, entre guillemets, il ne répond plus. Et en fait, on a montré aussi que sur un jeune peuplier, un peuplier de 3 mois, donc c'est pas bien haut, hein, mais sur un jeune peuplier, il faut 10 jours pour que l'arbre retrouve sa capacité de réponse de départ. Ça veut dire qu'en gros, qu'est-ce qui se passe dans ces 10 jours ? Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs entre la première et la deuxième flexion ? L'arbre a modifié son seuil de sensibilité au vent. Il est devenu insensible à ce vent qu'on répète et à cette flexion qui est toujours la même qu'on répète, d'accord ? Ça veut dire qu'il a appris qu'une flexion d'une amplitude donnée qui correspond à un coup de vent d'une vitesse de vent donnée, eh bien, il ne répond plus. Et il ne va répondre que si le coup de vent suivant est plus fort. Ça veut dire finalement qu'il y a un véritable apprentissage. Et qu'un arbre, quand il se construit tout au long de sa vie, eh bien, il apprend à filtrer les vents courants, les vents faibles, et à ne répondre qu'aux vents forts.
Il fait le tri, finalement.
Il fait le tri. Alors, ce n'est pas une forme de décision, bien sûr. Il n'y a pas de prise de décision, parce que quand on dit « je décide de faire quelque chose », pour faire cela, il faut être doté d'une conscience réflexive, de pouvoir réfléchir. Et la plante, jusqu'à présent, n'a pas prouvé l'existence d'une conscience réflexive. On pourrait parler, si vous voulez, de cette notion de conscience. Les Anglais, eux, les anglophones, les collègues qui travaillent sur la conscience, ont 2 mots pour désigner cette conscience réflexive dont on vient de parler, qui nous permet de prendre des décisions. Et puis, ils désignent un autre niveau de conscience qu'ils appellent la conscience perceptive, et qui est la conscience du milieu extérieur, qui est finalement notre sensibilité, si vous voulez, ce mot qu'on a utilisé tout à l'heure. Et donc, faut pas confondre la conscience réflexive et la conscience perceptive. La conscience perceptive, elle ne permet que de mettre en place des automatismes, si vous voulez, et non pas de prendre des décisions.
Et on écoute tout de suite le morceau Forest du groupe Joie, parfaitement dans le thème de cette émission, et on revient juste après.
Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
Catherine Laine, on a parlé de l'arbre qui est sensible, qui s'adapte à son environnement, qui l'écoute, qui peut-être communique, qui apprend. Tout cela nous amène donc à la fameuse question de l'intelligence, qui est une question très compliquée, parce que notamment elle a beaucoup de définitions. C'est difficile de définir l'intelligence. Et deuxième complication, ce n'est pas du tout votre domaine d'expertise à l'origine.
C'est ça, je ne suis pas experte de l'intelligence.
Alors pendant longtemps, il y a eu une vision très ancienne qui a dominé les croyances, celle d'Aristote, il y a 2400 ans, avec les trois niveaux d'âme, l'humain tout en haut, forcément, les animaux en dessous, et puis à la fin, les plantes. Pourtant, dernièrement, les livres, les documentaires, les conférences sur l'intelligence des plantes et des arbres se multiplient. Et je cite une phrase d'un de vos articles, paru en mars 2018 dans la revue Espèces. La découverte de la sensibilité des plantes et en particulier de leur capacité à communiquer a engendré depuis quelques années un véritable changement de paradigme de la société à leur encontre. Alors, on en est où sur cette question ? Est-ce qu'il existe un consensus scientifique sur l'intelligence des plantes ou pas du tout ?
Alors, je dirais que non. Et comme déjà, il n'existe pas de consensus sur l'intelligence humaine. Enfin, ce que je veux dire, c'est que déjà, définir ce qu'est l'intelligence, c'est déjà un travail d'une vie. Donc, définir l'intelligence, c'est ce qu'on peut faire et ce que je fais souvent, c'est que j'essaye de procéder par mots-clés. Pour être intelligent, je peux citer quand même une définition de l'intelligence que j'aime bien, qui est une définition venant du monde de la psychologie du développement. Jean Piaget, qui était un biologiste spécialiste de la psychologie du développement, disait que l'intelligence, c'était la capacité à résoudre des problèmes dans un environnement donné, face à une situation donnée. Et moi, j'aime bien prendre ce point de départ-là. Si être intelligent, c'est résoudre un problème, alors mes plantes, elles sont intelligentes, et autant que vous et moi, puisque face à toutes les contraintes du milieu dans lequel elles vivent, elles sont armées pour percevoir ce problème et y répondre de manière adaptée. Donc, les plantes sont intelligentes. Mais vous pouvez rajouter aussi que le navet... Mais vous pouvez rajouter également que le ver de terre est intelligent, puisqu'il fait la même chose, que les bactéries sont intelligentes, bref, que tout le vivant est intelligent. Parce que le vivant, c'est la définition même du vivant, la capacité à percevoir et à répondre, la sensibilité. Donc si l'intelligence se résume à ça, bon, oui, les plantes sont intelligentes. Je pense qu'on va un petit peu plus loin quand même. Cette intelligence, pour résoudre un problème, eh bien, il y a des capacités de mémoire, des capacités de faire appel au vécu. Cette mémorisation, eh bien, chez les plantes, on montre des formes de mémoire. On a montré ce qu'on appelle la mémoire procédurale, c'est-à-dire la mémoire des automatismes, encore une fois. La plante est capable de se souvenir. J'ai parlé tout à l'heure du peuplier qui changeait son niveau de sensibilité entre la première et la deuxième flexion. C'est une forme de mémoire procédurale. Donc, pourquoi pas ? La communication, on l'a évoqué ensemble. Si être intelligent, il faut communiquer avec le voisin ou avec les espèces autour de soi, eh bien, il est possible que les plantes communiquent. Donc, jusqu'à présent, on est tout le temps dans l'ouïe. Les plantes sont intelligentes. Après, bien sûr que lorsqu'on travaille sur l'intelligence humaine, mais même l'intelligence animale, on va aller encore au-delà. On va aborder la notion de conscience, on va aborder la notion de comportement intelligent. Et tous ces différents niveaux, eh bien, vous avez différentes écoles dans les chercheurs végétalistes. Il y en a qui disent, mais si, il y a tout ça. Il y a des analogies, donc on peut voir des formes de conscience. Il n'y a pas de cerveau, mais si, moi je vous en trouve dans une plante. Il y a un cerveau diffus, on va dire. On va dire qu'il y a des neurones. Il n'y a pas de neurones, si, il y en a. On va dire qu'il y a des tuyaux qui permettent la circulation de la sève. Et ces tuyaux, les tuyaux du phloème, peuvent être considérés comme des voies de circulation de signaux. Donc, pourquoi pas ? Donc, on peut faire toutes les analogies qu'on veut pour tordre la réalité et dire que oui, les plantes sont intelligentes comme nous. Mais est-ce qu'on a besoin de ça ? Moi, je suis une grande défenseuse, à l'image de Francis Allais et de toute une génération de chercheurs, de l'altérité végétale. est-ce qu'on a véritablement besoin de coller sur ces plantes, sur ces arbres, notre propre intelligence, notre mode de fonctionnement, alors que ces plantes ont un mode de vie différent? Elles n'ont pas les problèmes d'un homme. Et un homme n'a pas les problèmes d'une plante. Imaginez-vous, les pieds dans la terre, toutes nues, dans le vent, le froid, ne pouvant pas bouger pour aller manger, pour aller boire, devant fabriquer votre propre nourriture, ne pouvant pas étreindre votre partenaire sexuel. Ça serait une drôle de vie quand même. Mais ça, c'est ça la vie d'une plante. Et elle réussit parfaitement, elle est parfaitement intelligente dans sa vie. Donc moi je pense qu'on n'a peut-être pas besoin parfois de vouloir à tout prix voir dans ces plantes ou dans ces arbres, parce que c'est souvent dans les arbres, un reflet de nous-mêmes. Vous avez remarqué aussi que souvent on va s'intéresser aux arbres et on s'intéresse beaucoup moins aux navets. Eh bien, pourquoi pas? Le navet et le chêne, c'est même combat. C'est très très proche dans la phylogénie, dans l'évolution. Donc, je vois pas pourquoi on pourrait s'identifier à un arbre ou identifier un arbre à nous et pas un navet.
Donc, vous venez de le dire, on a une certaine tendance à l'anthropomorphisme, à comparer l'arbre à nous, à lui attribuer des caractéristiques d'humain, même si ça peut porter à confusion, notamment dans certains livres qui ont eu beaucoup de succès, où l'anthropomorphisme était très présent. Nos problématiques, vous l'avez dit, ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'il est possible qu'on manque d'imagination et qu'on passe à côté d'une intelligence qui est trop différente de la nôtre ?
Ah, c'est une jolie question, une sorte d'intelligence extraterrestre, mais qui serait quand même terrestre. C'est intéressant, j'aime bien comme question. Oui, je pense que, encore une fois, ce mot d'altérité, l'autre, et pourquoi est-ce qu'on veut absolument qu'un arbre nous ressemble ? Mais parce qu'on a toujours peur de l'autre. On a peur de l'autre dans notre vie d'homme, on a peur du migrant qui vient d'un autre pays, on a peur de celui qui n'a pas la même couleur de peau, on a peur de l'autre, parce que l'autre est un inconnu. Alors, vous voyez, un arbre, c'est encore plus loin de nous, et en même temps, il nous ressemble, hein, il se tient debout, il est érigé dans le milieu, il vit longtemps comme nous, enfin, encore plus longtemps, bien sûr. Donc, est-ce que oui, on manque peut-être d'imagination pour imaginer une intelligence différente de la nôtre ? Et vraiment, moi, je milite pour ça. Ensuite, l'anthropomorphisme. Vous avez dit, on le retrouve beaucoup dans certains écrits, etc. L'anthropomorphisme, ça peut être un outil extraordinaire pour expliquer les choses, pour vulgariser au sens noble du terme, pour transmettre des connaissances scientifiques. Et pourquoi ? Parce que quand on fait des analogies avec nous-mêmes, on comprend bien, on comprend mieux les choses. Quand je fais une analogie des sens pour expliquer qu'un arbre peut percevoir de la lumière, comme nous, notre œil, eh bien on comprend mieux finalement les yeux de l'arbre. Entre guillemets, évidemment, il n'y a pas d'yeux, mais ce sont tous ces pigments qui sont diffus dans ces cellules et qui lui permettent de percevoir ces fameux infrarouges. Donc, l'anthropomorphisme, ça aide à comprendre. Ça fait des images, des métaphores, si vous voulez. Et puis, ça peut même être encore plus puissant que ça. Et par exemple, dans la recherche, ça peut inspirer la recherche. Chez nous, à Clermont, en 2013, on travaillait sur la gravité, la perception de la gravité par les arbres, et on savait depuis Darwin, donc depuis 150 ans avant nous, que les plantes sont sensibles à la gravité. C'est-à-dire, lorsqu'on met une plante couchée, vous lui laissez le temps, elle va se redresser à la verticale. C'est par un mouvement de croissance, d'accord ? Déjà, Charles Darwin étudiait ces mouvements de croissance. Et puis depuis, eh bien, on a tout décortiqué, on comprend bien comment le signal est perçu, comment les hormones se promènent dans la plante, enfin, toute la réponse de croissance. Mais nous, au labo, on s'est demandé si la perception de la gravité suffisait pour une plante à se tenir debout, à se redresser et à se trouver parfaitement droite. Et on est passé par des modèles mathématiques pour vérifier que la perception de la gravité permet à une plante inclinée, à une plante couchée, de se courber et de se redresser à la verticale. On fait un petit modèle mathématique. Et quand on fait tourner ce modèle mathématique dans lequel on a mis uniquement la perception du facteur gravité, c'est-à-dire la perception de l'angle d'inclinaison par rapport à la verticale, d'accord ? Eh bien, ça ne marche pas. Donc on s'est dit, ben, ça ne marche pas. La perception de la gravité toute seule, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui manque pour qu'une plante se redresse à la verticale et se rectifie, redevienne parfaitement droite et reste à la verticale ? Et donc on a regardé chez nous. Donc on a fait de l'anthropomorphisme et on s'est dit, mais nous, comment on fait pour nous tenir debout ? On perçoit aussi la verticale, la gravité dans notre oreille interne. Mais on ne fait pas que ça pour se tenir debout. On a dans tout le corps des capteurs mécaniques partout dans nos muscles, dans nos articulations, sous la voûte plantaire, des capteurs qui renseignent notre cerveau sur la position de notre corps dans l'espace. Ça s'appelle la proprioception, c'est-à-dire la perception de sa forme propre. Proprioception. Et on s'est dit, eh ben, peut-être que les plantes font pareil. Si elles perçoivent la position de leur corps dans l'espace, peut-être que c'est ça qui va leur permettre de se tenir debout. Donc dans le modèle, on a rajouté à la perception de la gravité, nous avons rajouté la perception de la forme propre. Comment ? Eh bien, on a rajouté la capacité à percevoir ses courbures, ses déformations. Et ça, on savait qu'une plante était capable de le faire parce qu'on avait travaillé sur le vent. Et qu'avant, donc avec ce vent, on savait qu'une plante percevait ses flexions, donc ses courbures. Donc on a rajouté cette capacité-là dans le modèle, et là ça marche. On voit un arbre virtuel qui se courbe à la base, qui se décourbe au sommet, et qui finit parfaitement rectiligne. Donc voyez, grâce à l'anthropomorphisme, en allant chercher une capacité d'homme, on a regardé, est-ce que les plantes l'ont ? Puisque la contrainte est la même. Pourquoi on a fait ça ? Parce que là, la contrainte du milieu est la même. Se tenir debout quand on est un être vivant dans le milieu aérien, un homme, une plante ou un arbre, c'est la même contrainte. Donc c'est pour ça qu'on est allé rechercher cette capacité qu'on a trouvée.
Donc ça a aussi ses petits côtés positifs.
Et complètement. Par contre, ça a ses côtés positifs, mais ça a ses côtés négatifs lorsque c'est omniprésent. Lorsque dans un écrit, dans un récit, dans un livre, l'anthropomorphisme, c'est le langage de base de l'écriture, là ça devient insupportable, parce qu'on fait de ces arbres ou de ces plantes, ou en particulier de ces arbres, des hommes de bois. Et ça c'est pas acceptable.
Catherine Laine, vous étudiez ce sujet depuis presque 30 ans, mais aujourd'hui, en 2022, on remarque un engouement nouveau. Comment on pourrait l'expliquer ?
Oui, c'est vrai qu'il y a 30 ans, on savait déjà des tas de choses sur les plantes et les connaissances commençaient à s'accumuler et nous, on était très enthousiastes dans les labos. Mais ça ne diffusait pas jusque dans la société civile, alors que maintenant, ça c'est le cas. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait ? Hélas, ce qui se passe, c'est le changement climatique. C'est l'inquiétude qui grandit dans le monde entier, dans les sociétés. Peut-être que nos dirigeants ne sont pas suffisamment inquiets, mais en tout cas, nous, le peuple, on l'est. Et il y a ça, le changement climatique, et puis il y a aussi le fait que de plus en plus de gens vivent en ville. On est de plus en plus déconnectés de la nature, déconnectés des plantes. On ne les voit plus. Hein. Dans les villes, elles font partie du décor. C'est à peine si on les regarde. Et cette déconnexion, les gens commencent à en prendre conscience et à se dire, mais il faut retourner vers ces valeurs-là. Il faut retourner vers cette nature, vers ce vert. Qui n'a jamais marché une heure dans une forêt et en est ressorti heureux ? Parce que effectivement, ces milieux qui apportent de l'apaisement, ces couleurs, il y a d'ailleurs des scientifiques, des collègues qui travaillent là-dessus, sur l'effet des plantes sur l'humeur humaine, sur la capacité de guérison, hein, la vitesse de guérison des malades, etc. Donc, il y a vraiment des choses à voir de ce côté-là et qui expliquent qu'on revienne et qu'on s'intéresse maintenant aux plantes et en particulier aux arbres.
Est-ce que cet engouement nouveau donne plus de visibilité à votre travail ?
Oui, très, très clairement oui. C'est-à-dire que les publications qu'on peut faire quand on est scientifique, ce sont des publications en anglais, dans des journaux qui sont lus par des collègues. Il ne faut pas se leurrer, personne ne lit ces journaux-là, à part les gens qui travaillent sur les mêmes choses. Par contre, de plus en plus maintenant, on écrit dans des revues et dans des magazines accessibles au grand public. On fait de la vulgarisation. Moi, je fais beaucoup ça, j'adore ça. Et effectivement, c'est important maintenant de diffuser ces connaissances. Alors, pourquoi le faire maintenant ? Ben, on l'a dit, parce que l'inquiétude du moment, ce changement climatique, etc. Il y a aussi une raison très prosaïque, c'est que moi, je suis quand même payée, mon salaire, c'est vos impôts, hein. C'est les miens aussi. Donc, moi, je suis fonctionnaire de l'État. C'est-à-dire que finalement, je dois des comptes à la société qui me paye pour faire ce métier-là. Donc, je trouve que c'est normal de rendre des comptes. Ensuite, évidemment, il y a le plaisir de le faire, le plaisir de faire découvrir aux gens des choses inconnues et des choses qui vont peut-être changer leur quotidien. De voir les arbres et les plantes différemment, eh bien, ça peut changer une vie, effectivement. Donc ça peut être important.
Et je rappelle que vous avez d'ailleurs écrit deux bouquins, deux livres, Dans la peau d'un arbre, secrets et mystères des géants qui vous entourent, qui est sorti l'année dernière, en 2021, et Dans la peau d'une plante, qui était sorti en 2014.
Oui, merci.
Alors, on peut se demander pourquoi on étudie les arbres, en fait, après toute cette conversation. Pourquoi est-ce qu'on étudie les arbres, leur sensibilité, leur peut-être intelligence? À quoi ça sert?
Et oui, alors on est là vraiment d'abord dans la recherche qu'on appelle la recherche fondamentale. Cette recherche fondamentale, c'est cette propension de l'être humain à vouloir tout savoir. Et c'est ce qui fait le beau métier de chercheur. On veut comprendre. Pourquoi ? Ben, ça peut être parce qu'on veut comprendre, point. Et ça peut en rester là. Il s'avère que dans le monde des arbres, il y a quand même des applications et des filières de débouchés importantes. Tout ce qui est évidemment la culture de ces arbres, la foresterie et la production de bois. Et donc, bien sûr qu'on est intéressé pour comprendre ces arbres parce qu'on les utilise. Mais aussi parce qu'on constate actuellement qu'ils sont en grand danger, confrontés à des sécheresses récurrentes et des canicules récurrentes depuis une dizaine d'années. Et donc, mieux comprendre leur fonctionnement, c'est peut-être aussi mieux comprendre la forêt de demain et mieux prévoir la forêt de demain. Donc, il y a aussi un aspect prévisionnel, hein, un aspect, la forêt de demain, c'est celle qu'on plante aujourd'hui ou c'est celle qu'on aide à régénérer aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir ces recherches fondamentales également.
Ces recherches, on en a parlé de quelques-unes. On en est où? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir ou est-ce qu'au contraire, on commence à bien connaître les arbres, les plantes?
Alors là, c'est difficile de répondre à cette question parce que je pense qu'on croit toujours connaître quelque chose et puis tout d'un coup, on découvre quelque chose de nouveau. Vous savez, une image que j'aime beaucoup utiliser pour expliquer c'est quoi la science. La science, par exemple dans le domaine des arbres, mais dans n'importe quel domaine, c'est des observations, des hypothèses qu'on teste avec des expériences qui vont confirmer l'intuition ou pas d'ailleurs, et puis des faits, donc ces observations, ces faits scientifiques qui vont alimenter un modèle. Un modèle, c'est donc une théorie, mais la théorie, ça ne veut pas dire que c'est fumeux, hein, ça ne veut pas dire que c'est hypothétique. Une théorie, c'est un modèle, c'est une espèce de puzzle dans lequel vous avez des pièces et tant que vous trouvez des pièces qui viennent s'insérer dans le puzzle que vous êtes en train de construire, ben ça veut dire que le puzzle, il tient le coup. La théorie, elle tient le coup. Elle va bien. Et tous les faits viennent vérifier, viennent s'encastrer dans votre théorie, ça marche. Le jour où vous trouvez une pièce de puzzle qui ne s'encastre nulle part dans votre puzzle, eh bien c'est que la théorie n'est pas bonne, le puzzle n'est pas le bon. Et il faut revoir cette théorie, il faut changer de paradigme. Donc je ne sais pas si on sait tout sur les arbres, à mon avis loin de là, mais en tout cas, tant qu'on trouvera de nouvelles pièces qui font évoluer le modèle, qui font changer le puzzle, eh bien on continuera à chercher.
Donc le puzzle est encore en construction. Merci beaucoup Catherine Laine d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
Le Labo des Savoirs, c'est déjà fini. Merci à Catherine Laine pour cette passionnante interview. Vous pouvez retrouver les références de ses livres et les sources sur le sujet en description du podcast. Merci également au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le www.labodessavoirs.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Thank you. Radio G. www.radio-g.fr.
Giving all praises to the